Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays?
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
La moitié sud du pays a donc vécu un dimanche brûlant, jusqu'à 43,4 degrés à Argeliers dans l'Aude.
On va vivre dans le frigo jusqu'à la fin de l'été, puis c'est tout.
Cela relève de l'éco-terrorisme.
How dare you?
Je ne crois pas au modèle Amish.
Mais vous êtes dingue!
Il va aller sur la terre.
Là, il est temps aussi peut-être un peu de désobéir.
Sainte-Soline, à 69, plusieurs luttes pour l'environnement ont été très médiatisées ces dernières années.
Pourtant, à l'image de la contestée loi du plomb, la législation environnementale est peu à peu détricotée.
L'écologie n'a plus la cote chez les politiques et les médias.
Certains n'hésitent plus à qualifier les militants écologistes d'éco-terroristes.
Un violent retour de bâton qu'on retrouve à l'échelle planétaire, 10 ans après les accords de Paris.
Depuis le début de l'ère pré-industrielle, la température moyenne de la Terre a augmenté d'1,5 degré.
Les climato-sceptiques, notamment présents à l'extrême droite, s'emparent du pouvoir politique, comme en Italie, aux États-Unis et en Argentine.
Assistons-nous réellement à un retour en arrière?
L'écologie politique est-elle morte et enterrée?
La lutte environnementale est-elle cantonnée à l'échelle locale?
Un autre monde est-il possible entre convergence et dépassement du capitalisme?
Vert de rage, une série documentaire en 5 épisodes réalisée par les étudiantes et étudiants du Master de journalisme de Sciences Po Rennes.
Lors de l'entre-deux-tours des présidentielles 2022, Emmanuel Macron a prononcé ces mots. Ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas. 3 ans plus tard, l'addition est salée. L'État français boude l'écologie, malgré les annonces à répétition des scientifiques, mais la lutte contre le dérèglement climatique n'a pas cessé pour autant. Partout en France, des collectifs se mobilisent contre des projets locaux jugés néfastes pour l'environnement. Pour Jean-Yves Jégot, c'est l'extension d'une mine à ciel ouvert à deux pas de chez lui qui l'a révolté. Nicole Le Garec, elle, s'est soulevée contre le projet d'installation d'une centrale nucléaire. Pour d'autres encore, ce fut un casino, un aéroport, une autoroute. C'est la lutte locale, le deuxième épisode de Vert de rage par Anna Godet et Jules Loéac, une série réalisée par les étudiants du Master de journalisme de Sciences Po Rennes sur Canal B.
Vous voyez toute cette terre qui a été remuée là-bas dans le fond, là. Voilà. Ouais. Ça c'est la fosse numéro 4.
Jean-Yves Jégot, président de l'association Douar Béo, lutte contre les extensions successives de la mine de Glomel en centre-Bretagne. Le mastodonte minier Imerys y extrait de l'andalousite, un minerai utilisé notamment pour fabriquer du fer et de l'aluminium.
L'andalousite, en voilà, c'est les petits traits blancs, vous voyez?
Ouais.
Donc, vous voyez que c'est pas l'essentiel de la roche. Et une fois qu'ils ont réussi à retirer 5 ou 6% d'andalousite, ben le reste, ça vient s'accumuler ici.
La mine de Glomel est ouverte depuis 1970. C'est la demande d'ouverture d'une quatrième fosse qui a mis le feu aux poudres en 2021 à cause des nuisances sonores et lumineuses.
Ils sont devenus de plus en plus visibles. Ça a amené une partie de la population à se poser des questions. On a commencé à discuter un peu ensemble, faire une première réunion publique, à créer une première association qui s'appelait Réfractaire. Imerys est d'ailleurs venu vers nous en disant on va voir ce qu'on peut faire. Ils ont pris des mesures pour réduire un peu l'impact des lumières nocturnes. Ils ont pris quelques mesures complètement inefficaces également pour assourdir un peu le bruit. Mais bon, ça s'est absolument pas ressenti dans le quotidien des riverains.
Cette première association, composée de riverains, a échoué. Imerys s'est quand même agrandi. Pire, certains adhérents ont été victimes de représailles.
Le contrôle social aidant, ceux qui se montraient un peu plus, là, se sont retrouvés stigmatisés. Certains avaient une activité économique, tout le monde n'est pas à la retraite. Hein. Je pense à une agricultrice qui faisait de la vente directe, etc. Elle a perdu la clientèle des gens qui travaillent chez Imerys. Enfin, très grosse pression. Quoi. Ça a été trop pour la plupart d'entre eux. Ils se sont retirés de la lutte. Certains ont même déménagé. Quoi. Ils ont dit, mais non, c'est plus jouable, c'est plus vivable. On vend notre maison et on s'en va. Ou certains se sont fait complètement discrets.
Insuffisant pour faire plier la contestation à Glomel, qui a pris un tournant plus écologiste.
Alors il y a eu une deuxième vague de contestation qui a émergé à partir des plus écolos d'entre nous, justement, dans les 6 mois qui ont suivi. Hein. C'était encore en 2022, à vrai dire. En fait, les plus écolos d'entre nous faisaient peur aux riverains. Et c'est logique, hein, au moment de l'action, il y a une montée de stress qui se fait. Et c'est souvent là qu'il y a souvent des associations comme ça, un petit peu militantes, qui volent en éclats à ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Réfractaire est resté. mais encore une fois avec des riverains. Ils ont beaucoup travaillé d'ailleurs, ils ont vraiment bien documenté le problème des nuisances et des pollutions. Et puis à côté de ça, il y a une seconde association, et ça n'a pas contribué à rendre les choses forcément très très claires pour la population, qui s'appelle Doarbéo, elle. Il y avait les nuisances, mais il y avait aussi les impacts environnementaux, et même un début de remise en cause de l'extractivisme. Au début, je me souviens, la première fois que j'ai lâché le mot anti-extractivisme, une personne qui m'a demandé « Oula, ça ne fait pas l'eau aux dents !» Elle n'avait jamais entendu parler, moi-même, j'en avais pas forcément entendu parler auparavant.
Les modes d'action utilisés sont très nombreux.
Nous, on a toujours été sur le terrain politique et sur un terrain légaliste, donc diffuser de l'information, interpeller, visibiliser, pardon, même si elles ne sont pas visibles, les impacts environnementaux. Donc, en fait, c'est du travail d'opinion. Médiatisation, ça, oui, on a mis le paquet. Et on a été aidé par le fait que c'est un sujet d'actualité européen et même mondial. Action sur le terrain juridique, mais là, c'est quelque chose qu'on a plutôt tendance à déléguer à cette association Eau et Rivière dont je vous ai parlé, qui a vraiment une vraie expertise en la matière.
Mettre la lumière médiatique sur Glomel a porté ses fruits. D'autres luttes ont rencontré Doarbéo pour s'inspirer et s'inscrire dans l'anti-extractivisme, un mouvement qui conteste l'exploitation des ressources naturelles pour la croissance économique. Doarbéo fait partie de la coalition Mine de Rien, qui regroupe des associations des communes concernées par la pollution de l'Ailé. Cette rivière prend sa source à Glomel avant de rejoindre la Laïta à Quimperlé, dans le sud Finistère.
Glomel n'est pas un cas isolé. On observe de nombreux conflits locaux pour la protection de l'environnement en France. Le Média Reporter en dénombrait environ 200 en 2020 contre 456 fin 2025. Une équipe de 7 chercheurs, dont Juliette Piketty, doctorante en sociologie, a recensé les contestations environnementales victorieuses depuis 1970.
Tout le monde aimerait bien savoir c'est quoi la recette pour qu'une lutte gagne. Nous, en l'état, on ne peut pas le dire et je pense qu'il n'y a pas de réponse simple, sinon ce serait trop facile. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'il n'y a pas une action qui permet de gagner. Mais par contre, il y a une chose qui permet de gagner, c'est d'avoir recours à un maximum d'actions différentes. Et donc, ces recours juridiques, on les retrouve beaucoup et en fait de plus en plus au fur et à mesure que se développe un droit de l'environnement. C'est-à-dire que dans les années 70, il n'y avait pas beaucoup de leviers juridiques pour faire reculer un projet. Mais au fur et à mesure que le droit environnemental se constitue, il y a des leviers importants qui se mettent en place et qui permettent pas forcément de gagner, mais de gagner du temps. Et ça, c'est vraiment très important, en fait. On enclenche un recours pour bloquer un permis de construire ou je ne sais quoi. Et ça permet de gagner quelques mois, quelques années et de renforcer la mobilisation, de gagner des soutiens, organiser des réunions publiques, faire des pétitions, des manifestations, qui fait que de plus en plus la colère gronde et le rapport de force se construit, se nourrit et finit par se renverser.
Juliette Piketty met aussi l'accent sur la durée des luttes. 7 ans en moyenne pour les victoires recensées dans leur étude. Une longueur qui peut faire s'essouffler la contestation. Pour contrer ce ras-le-bol militant, on fait la fête.
C'est la lutte locale, le deuxième épisode de Vert de Rage, une série documentaire radio par les étudiants du Master de Journalisme de Sciences Po Rennes sur Canal B. Juliette Piketty explique que les rassemblements festifs sont essentiels pour se rencontrer et créer des coalitions.
Ils peuvent se rencontrer aussi à l'occasion de grands rassemblements. Typiquement, le Larzac jouait ce rôle-là dans les années 70-80, d'avoir un lieu où l'été, il pouvait y avoir des grands rassemblements écologistes et tout le monde se retrouvait avec sa lutte locale. Et donc, c'était l'occasion de discuter un peu de qu'est-ce qui se passe, il faudrait qu'on s'organise, qu'on fasse des coalitions. Et cette tradition-là, elle a pu rester aussi avec, par exemple, le festival Les Résistantes qui a été organisé une première fois sur le Larzac il y a deux, trois étés, et puis là qui a été réorganisé en Normandie cet été. Et c'est des moments assez importants pour structurer des coalitions de lutte, parce qu'il y a des personnes, des militants écologistes de toute la France qui se retrouvent et qui discutent et qui essayent de se structurer.
Les Résistantes, c'est un festival créé par Terre de Lutte en 2023 et qui se déroule tous les deux ans dans un lieu différent. Il propose des activités politiques et culturelles pour rassembler la sphère militante française en un seul lieu.
Au-delà de ces grands rassemblements, il y a des rassemblements qui peuvent faire se rejoindre des militants de toute la France, mais il y a aussi juste quand la plupart des collectifs qu'on a pu suivre, ils organisent des événements festifs pour faire connaître la lutte, pour faire connaître le projet, pour essayer de mobiliser comme ça. Et donc ça, c'est des aspects qui sont extrêmement importants pour mobiliser plus largement. Organiser une journée autour de la zone humide, et à ce moment-là, il faut des personnes qui font à manger, des personnes qui créent ces moments de joie et d'enthousiasme qui permettent de rameuter plus de monde autour de la mobilisation.
Jean-Yves Jégot, de Glomel, le confirme. Depuis 2024, son association contre l'extension de la mine d'Andalousite a mené plusieurs actions festives.
Alors ici, vous êtes devant un lieu très très symbolique, puisque c'était là qu'on avait amené la manifestive, c'était la grosse manifestation qu'on avait organisée au mois de novembre. Il y avait un avis de tempête, je crois, on était en alerte orange ou quelque chose dans le genre. Et bon, on a eu très peur, quoi, comme toujours en tant qu'organisateur, par rapport à une des affections possibles. Et puis, à notre grande surprise, on était pas loin de 400, en fait. On a démarré du bourg de Trégornon et on est venu à pied jusqu'ici. Et il y avait ici des prises de parole, des chorales, voilà, c'était une manifestation qu'on a appelée. Enfin, et puis en plus, elle était très festive, effectivement. Elle portait bien son nom.
La journée anti-extractiviste qu'on a organisée au mois d'août sur la plage de Glomel. Choisi la plage de Glomel en plus pour visibiliser la lutte là en plein. Hein. On a transformé cette manifestation en pardon avec un pardon conduit par le père de la fosse, quatrième du nom, voilà, qui a donc prononcé son sermon. Et je dois dire que c'est quand même vachement efficace parce que j'ai assisté à des prises de parole comme ça. On a beau dire, on a tous un moment où on sature, hein, des gens qui les uns après les autres défilent et vous racontent un peu la même chose. Je suis très méchant, je sais pas tout ce que c'est comme ça. Mais il y a un moment de saturation, quoi. Et là, au moins, quand vous avez un type qui arrive grimé en curé, s'il est pas trop mauvais, il arrive à capter toute l'attention, quoi, en fait.
La lutte n'est pas composée que de fêtes et de manifestives. Ce sont aussi des festivals à part entière. Comme les résistantes, mais aussi comme les grandes rurales, organisées tous les 7 ans dans un lieu différent par le mouvement rural de jeunesse chrétienne, ou MRJC. Un événement qui se démarque par une programmation à forte consonance écologiste.
À la chance de voir ta tête ? Ben non, parce que je suis en train de me fringuer, donc pas encore.
Ah !
Pas du tout, je travaille en fait. Ah non, je suis chez moi. Ah, je pensais pas. Pas clair.
Élie et Antoine ont fait partie de l'organisation de ce festival, qui s'est tenu en juillet 2025 à Chemillé-en-Anjou, au sud d'Angers.
Au MRJC, on sait organiser des fêtes de village, on a cette culture de, on organise un peu des fêtes très régulièrement, quoi. Et c'est l'occasion de se pencher un peu sur ce que c'est cette fête de village, à quoi elle sert, et aussi comment on sert de la convivialité et de ces espaces de fêtes pour faire village et pour rassembler un peu tous les habitants d'un village, au-delà un peu des conflits qu'il peut y avoir dans ces communautés, quoi.
L'objectif, c'est de faire un événement politique, mais pas que politique. Je pense que effectivement, ce que tu as dit, c'est important, le fait de pouvoir avoir des moments de respiration, de fête, pour profiter aussi et sortir un peu de la déprime potentielle de certaines luttes ou des luttes de manière globale. Mais du coup, l'objectif, c'était vraiment de mixer les deux, d'avoir à la fois une programmation politique qui était quand même assez assumée, quoi, en tant que telle, et portée en tant que telle, et défendue, et aussi avoir des moments plus relax qui permettent de montrer que c'est possible en fait de faire les deux et de profiter en réfléchissant aussi.
Comme c'est un peu aussi le public que nous on représente dans l'organisation, il y a un côté où on a un peu envie parfois de faire un truc hyper militant qui va attirer les collectifs militants qui sont peut-être plutôt arrangés et qui sont pas pour faire un festival un peu de ce genre-là, et où en fait on essaye de se recentrer un peu parce qu'on a quand même envie que ce festival-là, ce soit une fête au village rural, quoi, qui rassemble les habitants du local. Et du coup, de réussir à trouver cet équilibre un peu entre comment on fait un truc qui est accessible à tout le monde et qui donne envie aux gens du local de venir, mais qui est quand même un événement qui a un fond politique et qui transparaît les valeurs du MHC et les valeurs qu'on a envie de porter.
Un point noir est quand même soulevé. Le festival a principalement accueilli des militants déjà convaincus.
Sur la soirée du dimanche soir, il y a quand même des gens qui sont passés qui n'étaient pas du tout du festival de base. Mais je pense que le nombre aurait été beaucoup plus important s'il y avait eu cette soirée-là. Dans les gens qui sont venus, il y a quand même en proportion peu de gens qui étaient du territoire sans aucun lien avec le MRJC, quoi. On a eu beaucoup d'anciens et d'anciennes du MRJC de Chemillé, par exemple, qui sont venus parce que c'était chez eux et que c'était trop bien, quoi.
Mais je pense que des habitants qui sont venus sans connaître, il y en a plus.
Les grandes rurales vont s'implanter durablement à Chemillé, avec l'objectif de s'adresser à un public plus large, des ruraux pas encore sensibles à la cause environnementale.
Steve Agimont est maître de conférence en histoire contemporaine à Sciences Po Toulouse.
Juste, vous préférez qu'on se tutoie ou qu'on se voit?
Peu importe. Je vous vois mes étudiants, mais là, vous n'êtes pas mes étudiants, donc on peut se tutoyer.
Ok, très bien.
Avec trois autres historiens, il a écrit une histoire des luttes pour l'environnement publiée en 2021. Le livre retrace les combats pour la sauvegarde de la planète depuis le XVIIIe siècle.
À la fois un changement tout à fait matériel, d'appropriation accentuée du monde depuis l'Occident, et puis d'un autre côté un changement aussi davantage culturel qui libère les freins qui pouvaient exister et les précautions qui pouvaient exister dans l'appropriation de la nature. S'il y a des luttes, c'est que ça, c'est plutôt un point de vue des élites administratives, des élites industrielles, des élites économiques, d'une partie de la noblesse et de la bourgeoisie qui est en pleine croissance en Europe de l'Ouest, mais que ça vient d'un certain nombre de grands propriétaires terriens, mais que ça bute sur les habitudes des communautés locales qui, elles, vont parfois résister à ces volontés d'appropriation des ressources naturelles. Pour ce qui a été assez bien documenté, qui est le mouvement des enclosures en Grande-Bretagne, qui commence au XVIIe siècle, mais qui s'accentue à la fin du XVIIIe siècle, les enclosures, en gros, ça passe par des actes du Parlement britannique qui permettent de privatiser des terres qui étaient des terres communes. Donc c'est des terres communes donc, qui étaient à disposition des communautés villageoises, qui faisaient, en gros, paître leurs troupeaux, qui leur procuraient de l'alimentation d'appoint, qui étaient des terres indispensables pour les populations les plus modestes, c'est commun. Et donc, devant l'appropriation privée de ces terres communes, il y a des résistances sur le terrain, des refus, enfin voilà, des tentatives d'empêcher cette privatisation et qui va conduire à l'usage de la force pour imposer l'ordre libéral qui est en train de se structurer en Grande-Bretagne.
La France a connu une première vague de lutte écologiste dans les années 70 et 80. À Plogoff, dans le sud Finistère, les habitants se sont soulevés contre le projet d'une centrale nucléaire dont les déchets radioactifs peuvent être dangereux pour la santé humaine. La lutte a duré de 1978 à 1981 et s'est soldée par la victoire.
1980, l'enquête d'utilité publique est lancée. Rassemblés contre le projet de la centrale, les élus des communes concernées font flamber les dossiers et ferment les mairies. Commence alors le temps des affrontements où les habitants de Plogoff, unis contre la centrale, se rassemblent chaque jour pour la grand-messe de 17h. Soutenus par les antinucléaires de toute l'Europe, ils vont lutter contre les CRS.
Selon Nicole Le Garec, réalisatrice du film documentaire Plogoff, des pierres et des fusils, l'attachement à la terre a été un élément décisif dans la contestation contre l'implantation de la centrale.
Eh ben, on va avoir des problèmes, oui, contre les mines maintenant. Mmh. Nous, on a été aussi... C'était une mine de lithium.
Oui, j'ai vu sur la voiture. Ah oui. j'ai été sûr que j'étais au bon endroit quand j'ai vu ça sur le pare-chocs. La voiture, c'est le bon endroit.
Tous les moyens étaient bons pour s'opposer à la centrale nucléaire. Réunions publiques, manifestations quotidiennes, confrontations avec les gardes mobiles, barricades. Tout le monde se sentait concerné par la mobilisation.
Un truc qui m'est resté, les enseignants, ça devait être des maternelles surtout, des petites classes quoi, en primaire. C'était souvent les grands-mères qui venaient récupérer les enfants. Les mères travaillaient, l'école finissait à 5 heures. Donc 5 heures, c'était trop tard pour aller manifester. Donc on disait aux grands-mères, venez à 4h30 chercher les enfants. Et ça posait problème à personne. Comme ça, les enseignants pouvaient manifester aussi, quoi, pouvaient venir à Plogoff.
Steve Agimont explique que le répertoire des modes d'action s'est étoffé depuis le XVIIIe siècle. Certains modes d'action existaient déjà, comme les pétitions et les manifestations. D'autres sont apparus au fil du temps, comme les recours en justice, les actions coup de poing ou les ZAD.
La ZAD va vraiment vouloir être aussi organiser une autre vie sur le lieu d'occupation. Non plus seulement empêcher l'aménagement, mais organiser de fait une autre vie, faire un contre-modèle de société sur le site d'occupation. Et ça, c'est vraiment la théorisation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes dans les années 2000-2010.
Mais tout ne se termine pas au moment de la victoire. Les différences de point de vue entre les militants refont alors surface.
Une fois la victoire obtenue, en fait, c'est là que les dissensions ressortent. et notamment sur qu'est-ce qu'on fait du lieu qu'on a préservé. Qu'est-ce qu'on en fait ensemble quand le collectif finalement est tellement composite que tout le monde n'a pas vraiment les mêmes idées sur ce qu'il faudrait faire de l'endroit. Et c'est ce qu'on a vu à Notre-Dame-des-Landes de manière assez éclatante. Il y a des conflits qui sont encore très vifs aujourd'hui sur la manière de vivre sur ces terres et à quel point on accepte ou pas la légalisation et de se conformer aux règles de l'État.
Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez Vert de Rage, une série documentaire réalisée par les étudiants en journalisme de Sciences Po Rennes. Ces victoires passées ont eu une influence sur les mobilisations actuelles. En 1990, un moratoire met fin au projet de création de plusieurs sites d'enfouissement de déchets nucléaires en France. L'un d'eux se trouvait à Neuvy-Bouin, entre Poitiers et La Roche-sur-Yon, où Jean-Paul Gobin a été l'un des acteurs de la lutte entre 1987 et 1990. Une source d'inspiration pour les militants actuels à Bure, dans l'est de la France, où se trouve un nouveau projet d'enfouissement.
À Bure, j'y suis allé deux fois. Ce qui m'a rendu triste, c'est que là-bas, il y avait un seul paysan qui s'était mouillé. Bien mouillé, hein, parce que mais là-bas, il s'était, l'endroit s'était permis, l'État s'était permis de lui piquer son tracteur pendant plus d'un an. Quoi. Alors que chez nous, c'était la même année, la même époque. L'État ne se serait jamais permis de s'en prendre à un paysan. Quoi. Quand il y a eu cette arrivée des gardes mobiles, très vite, c'était un samedi après-midi, il y avait une centaine de tracteurs qui sont arrivés rapidement, quoi, qui, avec peut-être 500 personnes. Bon, ben là, tout de suite, tu sens qu'il y a un mouvement de masse, un mouvement populaire. J'ai eu rencontré plusieurs jeunes, waouh, qui étaient tellement avides de connaître comment ça s'était passé chez nous, parce que là-bas, c'est foutu, quoi. Moi, je vois pas comment... comment le projet ne pourrait pas être mené à son terme. Des jeunes, il y en a qui étaient venus ici, ils avaient vraiment vivement incité à y aller. On était allés plusieurs, ils avaient fait une grande manif, il y avait des gens de ce gré, puis nous, on était allés en car, je crois, une manif, mais aucune commune mesure avec le mouvement populaire qu'on avait pu vivre ici. Là-bas, il y a une population beaucoup moins dense, une activité économique franchement en berne. Nous, on n'était peut-être pas riches, mais on avait une population rurale qui était nombreuse. Pas riche, mais il y avait une vie sociale encore riche. Ce qui fait que pour réagir, bah, tout de suite, paf, on y va collectivement, quoi. Et ça fait masse. Après, là-bas, l'endroit est arrivé. L'endroit chez nous est arrivé avec des gros sabots. On a organisé une réunion publique dans une commune pour expliquer notre projet. Qui a galvanisé l'opposition, quoi, parce que tout le monde se concentrait, et puis on les démontait. Et à chaque fois qu'ils allaient organiser une nouvelle réunion publique, il y avait un comité d'opposition qui se lançait, quoi. Alors que là-bas, ils y sont arrivés tout doucement, ils ont apporté des sous, ils ont financé une association de parents d'élèves, ils ont financé des constructions d'un gymnase, et ils ont créé de l'emploi, alors peut-être dans des bureaux. Et ce qui fait qu'ils se sont implantés en douceur dans le paysage. Et maintenant, actuellement, il y a peut-être, je suis sûr qu'il y a une centaine d'emplois permanents, quoi. Les gens, ils se battent là-bas. C'est plus avec l'argument économique, parce que l'économique avait tout leur porte à croire que ça va rapporter. Ils n'ont que l'argument politique en disant, mais ça nous fait peur.
Pour exister à une échelle plus large, les luttes locales doivent s'allier et créer des coalitions. Une tendance qui existe depuis longtemps, mais qui semble se renforcer ces dernières années.
Alors, il y a plein de types de coalitions différentes qui peuvent exister. Déjà, il y a des associations environnementalistes, comme France Nature Environnement, qui, eux, sont très bien structurées à l'échelle nationale et départementale. Et donc souvent, quand des luttes locales se créent, ils vont contacter cette association, France Nature Environnement, pour demander des coups de main juridiques. Il y a aussi des coalitions qui, elles, sont plus éphémères, mais aussi souvent plus impliquées dans les luttes, des coalitions contre des projets. Alors, ça ne va pas forcément être au niveau régional. Souvent, c'est au niveau national, par exemple. Il y a une coalition contre les autoroutes qui s'est formée dans les années 2000, parce qu'il y avait beaucoup de projets d'autoroute qui ont finalement, il y en a beaucoup qui ont été annulés, sans doute grâce à cette coalition, donc une autoroute qui devait relier Grenoble et Gap, une autoroute qui devait relier Lyon et Saint-Etienne à travers les coteaux du Lyonnais, une autoroute à travers le Marais Poitevin. Donc toutes ces luttes, elles s'allient et elles gagnent. Mais cette coalition, en fait, elle dure à peine quelques années, elle disparaît. Et là, 10 ans plus tard, il y a une nouvelle coalition contre les projets de route, qui s'appelle la Déroute des routes, qui s'est recréée il y a 5 ans. La 69 fait partie de cette coalition, mais il y a plein de projets d'autoroutes et de contournements autoroutiers. Et de... Je pense que ça regroupe une trentaine de collectifs, voire plus. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Ça, c'est le cas des coalitions anti-routes, mais il y a aussi des coalitions contre les mines. Ça, c'était aussi dans les années 2015, par là, parce qu'il y a une politique gouvernementale de renouveau de la production minière. Et donc, il y a des luttes qui s'organisent contre. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que ça permet de faire de la veille collective. Et typiquement, c'est, je crois, des militants bretons qui ont prévenu des Basques qu'une mine était en train de se créer. Enfin, il y avait un projet minier chez eux.
Ces coalitions répondent à plusieurs objectifs, ajoute Juliette Piketty.
Faire connaître à l'échelle nationale, veille collective sur les nouveaux projets et manifestations communes.
Créer des coalitions est l'objectif de Terre de Lutte, une association dont Victor Vauquois est le cofondateur. Elle est contactée par des militants étrangers qui cherchent à s'en inspirer.
On est de plus en plus contactés par des internationaux qui nous demandent justement comment est-ce qu'on a créé Terre de Lutte, qu'est-ce que ça a permis, notamment en Europe, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Italie, là, des personnes qui veulent créer des choses un peu similaires. On a des cousins belges qui s'appellent Occupants de Terrain, qui sont vraiment très similaires à nous, mais en Belgique.
Si les temps ne sont pas faciles pour les militants écologistes, victimes d'une répression de plus en plus intense, Victor Vauquois est optimiste quant à la capacité des luttes locales à s'allier et peser au niveau international.
Je crois que le contexte fait qu'on n'est plus comme en 2018-2019 à un moment où on a le vent dans le dos et où tout le monde parle en bien d'environnement, d'écologie, etc. Malheureusement, on doit plus faire face à des offensives de nos adversaires très fortes. Et donc, peut-être, c'est moins le moment de faire ce genre de mobilisation de masse, mais ça reviendra. Moi, je pense que la vie militante et la vie de la mobilisation et des mouvements est une question de cycle. Et que c'est pas parce qu'on est dans une phase où on est un peu moins nombreux qu'on ne sera pas demain. En fait, le nombre, il s'organise aussi localement et avec potentiellement des centaines de milliers de personnes. Quand on parle de 700 collectifs qui se battent un peu partout, quand on parle de 8000 personnes résistantes, de 30 000 agents de solides, en fait, c'est déjà un mouvement social qui s'organise peu à peu. Et c'est déjà assez massif.
Au niveau international, la COP30 à Belém au Brésil a déçu les scientifiques et les ONG pour son manque d'ambition sur les énergies fossiles. Mais l'écologie est parfois gagnante au niveau local, et ce, aux quatre coins de la planète. C'était « C'est la lutte locale » de Jules Loéac et Anna Godet dans Vert de Rage, une série docu sur les ondes de Canal B. Pour les crédits de cet épisode, il y a, dans l'ordre d'apparition, Earth de Lil Dicky, Nightfall de Soul Prod Music, Lejos de Casa de Sidi Huacho et Surreal Vistas de Denis Brodowski. Un reportage de France 3 Bretagne publié le 15 janvier 2014 intitulé 1980, les manifestations de Plogov, Tapis rouge de Zig Bazar et Respire de Gaël Faye. Un grand merci à Jean-Yves Gégaud, Juliette Piketty, Victor Vauquois, Steve Agimon, Antoine et Élie du MRJC, Nicole Le Garec et Jean-Paul Gobin d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Vous pouvez réécouter la série en podcast sur le site de Canal B, canalb.fr.
Les victoires permettent de garder espoir, mais chacun doit faire des efforts. Et les plus riches, qui polluent le plus, sont les premiers à devoir changer leurs habitudes. C'est ce que nous verrons ce mercredi avec Lila Berdaï et Léonard Cottreau dans L'Hypocrisie Dorée.
T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire.